Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler et dit
« Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. »
Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires et qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit :
Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait, et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quand la bête qui existait et qui n'existe plus, quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi, et elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles sont avec lui et les vaincront aussi.
Puis il me dit :
Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre.
Là, on va rentrer dans beaucoup de détails, mais en réalité, on n'a pas le temps. Mais je vous annonce déjà, même si peut-être la personne qui fait les annonces va le redire, on a décidé à 14h30 cet après-midi, ici même à la Grange, de faire une petite réunion pour ceux qui auraient des questions à poser, où on peut encore discuter de l'Apocalypse. Donc, si vous avez encore des choses à voir, des questions à poser, c'est 14h30 cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce texte ? On commence à parler de la chute de la grande Babylone. Je reviens sur ce que j'ai dit hier. C'est que par 4 fois, on voit les mêmes événements qui décrivent le cours de l'histoire. Il y a un petit danger dans ce que j'ai dit. Un petit danger, c'est que dans certaines cultures, on peut penser que l'histoire est donc cyclique. Mais ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on l'a vu 4 fois. L'histoire n'est pas cyclique. L'histoire, selon la Bible, est linéaire. L'histoire va vers une fin. Et cette fin, on y arrive maintenant avec ce chapitre 17 jusqu'au chapitre 20, où on va parler de jugement. Et n'oubliez pas aussi, l'objectif de ce livre, c'est que Dieu n'oublie pas son peuple. Mais au fond, la raison pour laquelle Dieu va intervenir, ce n'est pas uniquement pour son peuple, c'est pour lui-même. Parce que actuellement, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, parfois on le perçoit, mais on le perçoit pas toujours. Mais on se promène dans la rue, on voit les gens, ils font leur vie. Ça semble à peu près bon, on se lève, on va chercher son pain, on va boire son café, etc. Mais on oublie l'insulte énorme que ça représente de se lever le matin, de chercher son pain, de boire son café, d'aller à son travail, de rentrer le soir, de regarder des infos, d'aller jouer ou voler ou je ne sais pas quoi. Et tout cela sans penser une seule fois au Créateur. Le plus grand péché, c'est de vivre de façon autonome, sans penser à Dieu. Et c'est là, en fait, ce que représente, comme on va voir, Babylone. Babylone représente plusieurs choses. Babylone représente ce désir de construire une société sans Dieu. Babylone représente l'idée que l'on trouve déjà dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, hein, c'est la même racine, c'est le même lieu. Cette tour que l'on construit pour monter vers les cieux sans Dieu. Même si avec une pointe d'humour, dans ce chapitre 11, on dit « mais Dieu descend pour voir ». Parce que les hommes n'arrivent pas vraiment à monter, ils n'ont pas à la hauteur, hein, pour le dire autrement. Donc Babylone représente toute cette société qui se structure. Babylone, ce n'est pas uniquement la ville de Babylone. Il y a des références dans ce chapitre, cette fois-ci au chiffre 7, dans un tout autre sens. C'est le verset 9, par exemple. Les sept têtes sont sept montagnes, ou le verset 18... La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui est la royauté, c'est les rois de la terre. On y voit une allusion à Rome, construite sur cette colline. Babylone, c'est la tour de Babel, c'est Rome. Babylone, c'est la vie d'aujourd'hui, qui se structure sans Dieu. Babylone, c'est ce désir de vivre sans Dieu. Et je termine ma phrase, et on pense que c'est normal. Et on pense que c'est normal. Une expression qui me semble tout à fait similaire dans la Bible, c'est le monde. C'est le monde. Et Jésus nous dit qu'il nous envoie dans le monde, alors que nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est Jean 17. Il nous envoie dans ce monde en tant que chrétiens. C'est un peu compliqué parce que, par ailleurs, il nous dit de sortir de ce monde. On va voir ça tout à l'heure. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, en tant que chrétien, qu'on soit dans ce monde, mais qu'on y soit en tant que chrétien. Qu'on ne ressemble pas aux autres. Qu'on soit différent. Ça veut dire qu'on va le vivre dans ce monde en pensant au Seigneur. Même dans une société laïque. Nous sommes chrétiens, 7 jours sur 7, 25 heures par jour. Bon, je dis ça parce que récemment, j'étais en Amérique latine et le petit magasin à côté de l'hôtel où on était, où on cherchait des sandwichs ce soir, c'était marqué « ouvert 25 heures par jour ». Donc, j'ai pas oublié ça, ça veut dire tout le temps. On est chrétien tout le temps, 7 jours sur 7, 25 heures par jour. Même dans une société laïque. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on est prof, on va pas commencer le cours en disant, je vais demander à quelqu'un de venir prier pour moi. Mais on va prier pour ses élèves avant le cours. On peut prier pendant le cours. C'est dans la tête et dans le cœur que ça se passe. Parce qu'on fait tout en relation avec le Seigneur. Donc, autrement dit, il faut que l'on soit dans le monde. Il ne faut pas être du monde. Ou pour le dire autrement, il ne faut pas que le monde soit en nous. J'aime bien l'expression qui dit que c'est comme un bateau. Il faut que le bateau soit dans l'eau, mais il ne faut pas que l'eau soit dans le bateau. Ça coule. Donc, il faut que l'on soit dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit en nous. Donc, Babylone est ici considérée dans ce texte comme une grande prostituée. Pourquoi prostituée? Ce n'est pas uniquement la question de l'immoralité. c'est que c'est par rapport à l'infidélité. Toutes les mentions de prostitution ont un double sens dans la Bible. Il y a la prostitution au sens sexuel, mais la prostitution dans le sens spirituel. Dieu est le mari, est le, si on veut, de son peuple. Si on se tourne vers des idoles, c'est de la prostitution. Et donc Babylone représente cela, cette femme vêtue de pourpre, d'écarlate, de pierres précieuses, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se livre à la débauche, vrai? C'est marqué au verset 4. L'extérieur est très beau, bien habillé, mais en même temps, on le voit bien, au verset 6, que cette femme est ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Elle persécute les chrétiens. Et pire, verset 14, elle combat l'agneau. Mais l'agneau vaincra. Bon, c'est marqué « les vaincra » parce que dans le texte qui précède, il s'agit de rois, donc les rois qui règnent sur Babylone, Babylone entre guillemets, donc la société qui se construit sans Dieu. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, on revient à fond la forme. Jésus est vainqueur et nous avec. Donc, cette Babylone qui se met en place, on va en parler davantage, mais on va écouter d'abord le chapitre 18.
Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte.
Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe.
Puis, j'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait
« Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fierté et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. Eh bien, à cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle. La mort, le deuil, la famine et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée.
Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront
« Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines.
Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. toutes ses richesses et ses splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ses produits, qui se sont enrichis en commerçant avec elle, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur !»
La grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites.
Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie.
Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville ?
Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient dans les pleurs et le deuil.
Malheur, malheur, malheur. La grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer, en une seule heure, elle a été dévastée.
Ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant
« C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. » La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.
Donc, de nouveau, Babylone, décrite comme notre société de consommation. Qu'est-ce qu'on voit ? Ces marchands qui viennent avec leur cargaison et puis qui pleurent. Pourquoi ? Parce que plus personne n'achète leurs biens. Et les marins qui disent, on est au chômage technique parce qu'il n'y a plus rien à importer, personne n'achète. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le jugement de Dieu. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons. » Toute cette société qui se met en place, qui semble tellement normale, est assez fragile. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, il n'y avait plus d'électricité aujourd'hui ? Moi qui habite au 16e étage d'un immeuble, je me ferais démoler. Mais sans parler de tout le reste, on sait que c'est fragile, toute la spéculation boursière dont il était question ces derniers jours. Mais il y a un jugement. Dans un sens, on peut dire que ce qui se passe dans ce texte est normal. Les gens achètent, jouent de la musique, il y a la lumière, la voix des jeunes mariés. Oui, c'est normal. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé le 11 avril 1954. La réponse, c'est rien. D'après les études qui ont été faites récemment, ils ont découvert que c'est le jour où les moins de choses se sont passées dans le monde au XXe siècle. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une élection législative en Belgique. Mais bon. Mais en général, le monde tourne. Ça continue. On achète. On vend. Récemment, avec ma femme, on a dû aller chercher quelque chose à la Défense, à Paris, tous ces grands immeubles. On se fait un argent fou, à la fois pour les individus et pour les entreprises. Et tout ça, c'est fini. Et il y a ce jugement, mentionné encore au verset 6, « Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. » Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » Et dans ce texte, sans que je le signale, il y a énormément de références également à l'Ancien Testament. Et là, je pense par exemple à Ésaïe 47, en parlant de Babylone, qui dit « Tu t'assieds avec assurance et tu dis en ton cœur, « Moi et rien que moi. » Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? Je répète, on ne pense qu'à soi, à ce qu'on peut acheter, à ce qu'on peut faire, sans référence à Dieu, sans référence aux autres. Et quand il y a des gens qui disent « Aimez-vous les uns les autres, aime Dieu de tout ton cœur », c'est embêtant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On essaie de supprimer des personnes qui disent ça. Et le verset 24, il dit « On a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Mais malgré tout, tout ça va disparaître, le verset 21. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Parce que ce qui semblait normal ne se passera plus. Malheur, malheur, on l'a entendu trois fois. C'est ça l'intérêt de la lecture des textes. Je n'avais pas remarqué que par trois fois. Mais malheur, malheur, cette expression. Parce qu'on n'achète plus et parce qu'on n'entend plus, comme j'ai dit, la musique, il n'y a plus de lumière, il y a tout ce qui semble normal. Ce que les gens pensent être normal, la représentation mentale de ce qui est normal. Et notre intervenant hier a parlé de structure de plausibilité. Donc ça vient de la psychologie sociale, où tout se met en place finalement par la famille, par la société, par l'éducation, pour que l'on confonde deux choses. Que l'on confonde ce qui est réellement et objectivement et toujours vrai, et la culture, qui n'est que secondaire. Et on pense que ce que les gens font, acheter, vendre, tout ça, c'est la seule vraie vie, alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, quand il y a le jugement, quelle est la réaction des chrétiens? Et du ciel, verset 20, « Ciel, réjouis-toi sur elle !» Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en jugeant ce monde. En fin de compte, dans la réalité de l'éternité, on va dire que ce qui était normal, c'est une vie où on aime Dieu et on aime les autres. Et ce qui était anormal, c'est une vie où on tourne le dos à Dieu et on dit « moi et rien que moi ». Et ça se verra et sera jugé. On continue la lecture, chapitre 19.
Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait
« Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé.
Ils dirent d'une seconde fois
« Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles.
Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant
« Amen, Amen. Alléluia.
Alléluia !» Une voix sortit du trône et dit
« Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. »
Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait
« Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. »
En effet, ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors
« Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. »
Puis, il ajouta
« Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. »
Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit
« Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. »
Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel.
« Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. » La chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands.
Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Donc au début de ce chapitre 19, c'est la seule fois où, dans le Nouveau Testament en tout cas, nous avons ce mot « Alléluia » à plusieurs reprises. Vous savez le sens de cela, « Yah », c'est Yahvé, c'est Jéhovah. « Alléluia, loué, Yah ». Et j'aime bien la traduction dans une version de la Bible, un peu bizarre, mais c'est, ils disent deux fois « Ah, loué, Yah » et « Allez ». Louéia, c'est une façon de faire passer l'idée que ça c'est quelque chose de dynamique. Alléluia. Parce que, verset 22, c'est, non, c'est pas, 18-22, c'est tout le contraire, pardon, c'est tout le contraire. Parce que si nous, chrétiens, on va chanter, ça remplace les chants qui disparaissent dans Babylone. Eux, ils ne chantent plus, nous, on chante. Parce qu'on est content que Dieu est vraiment le vainqueur. Il y a deux raisons de se réjouir. Une raison générale, verset 2, une raison spécifique. La raison générale, c'est parce que, nous le lisons, parce que ces jugements sont véritables et justes. Dans la société, la justice est toujours relative. On essaie de faire pour le mieux, mais on ne sait pas tout. Dieu connaît toutes les pensées, toutes les paroles, toute la motivation de tous. Donc, ces jugements sont véritables et justes. Donc, toute bouche sera fermée. Plus personne ne pourra dire « je fais appel ». On ne peut pas. Dieu est le juste juge. Donc ça, c'est la raison générale. Et la raison spécifique, comme on l'a dit, c'est que Babylone a essayé d'être la grande prostituée qui séduit le monde, séduit pour qu'on adore autre chose que Dieu. Et finalement, sa fumée va monter de siècle en siècle comme une sorte de mémorial pour qu'on n'oublie pas quelque part, même, je pense, pendant toute l'éternité, que nous sommes des sauvés. Et qu'il y a un petit rappel de ce qu'on aurait pu être sans la grâce de Dieu. Et puis, on parle des noces de l'agneau, à partir du verset 7. Et ce qui est un peu compliqué, parce que c'est le langage apocalyptique, c'est qu'à la fois, nous sommes, en tant qu'Église, l'épouse de l'agneau. L'épouse s'est préparée. On lui a donné un fin lin éclatant, pur, très très différent d'ailleurs de ce vêtement de pourpre, écarlate, paré d'or de la grande prostituée. Nous, c'est simple, c'est pur, c'est blanc. Donc, on est l'épouse, mais en même temps, nous sommes les invités, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est pour ça que quand on dit « Ah, il faut prendre le temps d'aller dans tous les détails », oui, mais parfois les détails, ça semble un peu contradictoire. Mais tout est vrai, ce sont des aspects différents que l'on met en avant. Et il y a un grand contraste, parce que d'une part, il y a les noces, mais d'autre part, il y a on peut dire une sorte de comment on peut dire un autre festin macabre où les charognards viennent, c'est inspiré de Ézéchiel 39, les oiseaux du ciel qui viennent manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, etc. Mais en fin de compte, et je pense qu'il est important de le dire, on termine toujours avec l'idée que la victoire est à l'agneau. Et à la fin, donc, la bête, le faux prophète, qu'on avait vu l'autre jour, qui représente d'une part la société et d'autre part la religion et la puissance économique qui vient créer ces structures de plausibilité, vont être jetées dans l'étang de feu, qui représente certainement à la fois tourment et en quelque sorte disparition, et d'un seul coup, toute cette société disparaît. Et la vraie société alternative, la nouvelle humanité, donc les chrétiens, que Dieu est en train de construire pendant tout ce temps-là, va le remplacer. Avant de lire le chapitre 20, je signale quelque chose qui est assez intéressant. 17, chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19, trois chapitres sur le jugement de cette société. Quand on pense jugement, on pense souvent soit le jugement de Satan, ça c'est les chapitres 20 de 1 à 10, ou bien le jugement des êtres humains. C'est intéressant de remarquer que, en quelque sorte, Dieu nous a créés en tant que pas en tant qu'individu, mais un peuple, et trois chapitres entiers consacrés à l'idée que l'ancienne société va disparaître, être jugée, pour que la nouvelle société vienne à sa place. Il faut faire attention à être trop individualiste. Ce que Dieu veut, c'est un peuple. Ce ne sont pas des individus. Et ce qui est terrible, donc, c'est que ce peuple qu'il a créé s'est construit sans lui. Donc, il consacre 3 chapitres pour dire cette société qui s'est construite sans lui sera jugée. Et ce n'est que maintenant, au chapitre 20, que l'on va lire le jugement de Satan et le jugement des hommes.
Puis, je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora.
Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le prétendu prophète. Où sont la bête et le prétendu prophète ? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu.
L'étang de feu, c'est la seconde mort.
Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu.
On arrive à ce chapitre 20, qui est certainement un des chapitres les plus difficiles à interpréter. On y reviendra peut-être à 14h30, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Ça me retire une épine du pied. Et on comprendrait mieux que mon explication de toute façon. Donc, simplement pour la structure, avant d'aller dans quelques détails, on a parlé donc du jugement de Babylone pendant 3 chapitres, maintenant le jugement de Satan jusqu'au verset 11, et puis le jugement dernier de 11 à 15 en ce qui concerne les êtres humains. Il y a un grand adversaire Satan, qui est derrière le faux prophète ou le prétendu prophète et la bête, que, comme nous avons vu, ont déjà été jetés dans les temps de feu et de soufre. Et on voit au verset 10 que le diable aussi sera jeté dans cet étang de feu et de soufre. Mais d'ici là, on parle de 1000 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 1000 ans? 1000 ans, c'est comme un jour. Alors, dans votre carnet, vous avez un petit schéma qui montre, c'est page 20, qui vous montre plusieurs façons de comprendre ce millénium, comme on dit. Il y a 4 idées principales, il faut que je les mentionne en disant que le GBU ne prend pas position. ça fait pas partie de notre confession de foi. C'est à chacun d'essayer de comprendre comment mieux interpréter tout cela. Mais les 4 interprétations principales, c'est ce qu'on appelle amillénarisme, parce qu'en grec, a veut dire non ou sans ou pas de. Il n'y a pas de millénium terrestre, parce que quand Christ reviendra, il y aura le début de l'éternité. Et le millénium est compris à ce moment-là comme étant plus ou moins la même chose que cette période de l'Église. Deuxième chose, c'est parce que le millénium, on dit, mais pourquoi on parle de 1000 ans? Donc, on a inclus le millénium à la fin de la période de l'Église. Donc, vous voyez, à gauche, il y a l'ancienne alliance, il y a la vie de Christ, donc son incarnation, il y a la croix et la Pentecôte, et après l'Église. Donc, jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais certains qui s'appellent post-millénaristes, donc le millénium, c'est l'aboutissement de la croissance de l'Église à tel point qu'on peut dire le monde entier est devenu chrétien. Et, par exemple, au XIXe siècle, avec l'essor des missions, on disait ce n'est qu'une question de temps. Dans quelques années, tout le monde sera chrétien, donc ce sera comme le millénium sur la Terre. Troisième interprétation, qu'on appelle pré-millénariste, parce que Christ revient avant le millénium. Et donc, le millénium à ce moment-là, c'est un règne terrestre de Jésus-Christ, donc un règne sur la terre, avant de passer à l'éternité après. Et pour certains prémillénaristes, et certainement pour tous de la quatrième interprétation, la raison pour laquelle le millénium existe, en partie en tout cas, c'est parce que les Juifs ont refusé de croire en Jésus. Donc suite au rejet des Juifs, cela leur donne une autre chance en quelque sorte, avec une règne de fer de Jésus, avec un moment difficile peut-être, où ils auront une deuxième chance de se convertir. Et pour certains, comme la quatrième interprétation, on dit Église mystère, parce que les dispensationalistes pensent que l'Église n'était pas prévue au début, que c'est tout le peuple juif qui aurait dû se convertir, peut-être les païens, les goïms, se joindre à ce peuple, et l'Église, comme entité différente que le peuple juif, n'aurait pas dû exister. Et donc, également dans le dispensationalisme, on dit que Jésus revient deux fois. Une première fois pour chercher les siens, et après il y a une grande tribulation qui va durer 7 ans. Et au bout de 7 ans, il va revenir, et à ce moment-là, il va régner avec ses saints pendant le millénium. Mais il y a également quelques variantes. Certains pensent que les 7 ans, on peut les diviser en 2 périodes de 3 ans et demi. Ce n'est pas le moment d'aller dans ces détails. Simplement, je pense qu'il est important de savoir sur quelle base on interprète. Et il me semble que il est important de regarder un texte, et je fais remarquer simplement que tout schéma qui semble trop parfait ne l'est pas quelque part. Moi, je pense que tous les quatre interprétations, il y a des points forts et des points faibles, personnellement. Mais je fais remarquer quand même que d'abord, si les 1000 ans sont 1000 ans de façon littérale, ce serait le seul chiffre de tous les livres à prendre au pied de la lettre, parce que tous les autres chiffres sont symboliques. Deuxième chose, aussi bizarrement que ça puisse paraître, on ne parle jamais dans ce texte du retour du Seigneur. C'est quelque chose qu'on y a ajouté, mais dont il n'est pas question, en fait, dans ce texte. Et la troisième remarque, c'est qu'on parle de trône au verset 4, et jusqu'ici, dans l'Apocalypse, si vous avez bien suivi, les trônes, c'est toujours au ciel, et non pas sur la terre. Donc, voilà, c'est autant d'éléments à prendre en compte, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire que, d'une certaine façon, Satan est lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est le Tout-Puissant et pas Satan. Nous ne sommes pas manichéistes, ça veut dire qu'il n'y a pas deux puissances égales, Dieu et Satan. Dieu est le plus fort. Et ceux qui étaient là l'année dernière avec Job, où Jonathan nous a fait des interventions remarquables sur Job, vous avez compris que Dieu est le plus grand. Il fixe des limites à Satan. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 29, il faut que l'homme fort soit lié pour être pillé, donc on peut le comprendre également dans le sens de l'évangélisation. Par contre, ce qui est assez compliqué, et je ne vais pas aborder ça maintenant, mais éventuellement 14h30 pour ceux qui veulent, on parle de première résurrection, mais à aucun moment dans la Bible on parle de deuxième résurrection, et on parle de seconde mort, alors qu'il n'y a jamais l'expression première mort dans la Bible. Donc, forcément, on va rentrer dans des jeux d'interprétation par rapport à cela. Le plus important, c'est que Jésus va être le plus fort. Et même s'il y a une opposition à Dieu, l'opposition sera balayée éternellement. Ça, c'est le jugement de Satan. Maintenant, il y a un troisième jugement à la fin de ce chapitre 20, le jugement dernier. Et je vais simplement mentionner 5 choses. La première chose, il y a un grand trône blanc. Parce que Dieu est le juge, et personne d'autre. Et Dieu sait tout. Il sait quand on se lève, quand on se couche. Il sait toutes nos pensées, nos paroles, avant de les prononcer. Il sait tout. On n'est jamais seul. Jamais. Dieu voit tout. Deuxième chose, c'est que, verset 11, la terre et le ciel s'enfuirent. Donc c'est la fin de l'univers actuel tel qu'on le connaît. Et on va en parler encore demain, parce que demain c'est le jour de fête, parce qu'on ne va pas plus parler de jugement, mais de notre vie éternelle avec le Seigneur. Troisième chose, tous les morts furent jugés selon leurs œuvres. Même les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va plaider coupable. Et notre avocat va s'avancer quelque part. Jésus, notre avocat, il va dire, j'ai payé pour lui. Comme Yo le dit souvent, Jésus est notre avocat, 100% de procès gagné. Quand Jésus plaide pour nous, on n'a plus rien à perdre, à craindre. On peut plaider coupable, mais il a payé à notre place. Il y aura donc la destruction de la mort et du séjour des morts, verset 14, donc la mort telle qu'on la connaît sur la terre. Ça n'existera plus. Et le plus remarquable, et j'aimerais terminer avec ça parce que c'est le point positif qui nous permet d'attendre avec impatience les versets des chapitres 21 à 22, que si son nom est écrit dans le livre de vie, on est sauvé. Par contre, c'est vrai, si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on sera aussi jeté dans les temps de feu, donc avec cette notion de tourment qui existe. il faut que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Et pour que ce soit le cas, on le dit et on le redit, une seule solution, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous rachète, et les rachetés sont écrits dans le livre de vie. Ce matin, j'aimerais terminer avec la prière. Prions. Seigneur, nous voulons être normaux dans ce monde, mais en même temps, le monde ne comprend pas ce que ça veut dire être normal. Et nous voulons construire avec toi ce nouveau peuple, cette nouvelle humanité qui s'émerveille de tout ce que tu es, de tout ce que tu as fait, qui combat le bon combat dans ce monde pour te plaire, pour vivre comme tu veux, pour t'aimer de tout notre être, pour t'aimer nos frères, pour aimer les autres. Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour cela. Ce matin, il y a des choses difficiles à entendre des fois. Nous voulons aussi vivre dans cette attente, non pas de nous réjouir que des personnes seront perdues, mais de nous réjouir parce que ton nom sera reconnu et glorifié, et que plus personne ne te tournera le dos, plus personne ne parlera mal de toi, plus personne vivra comme si tu n'existais pas. Et nous nous réjouissons de ce moment. Nous voudrions le vivre, nous le vivrons. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que nous le vivrons. Seigneur, que ces jugements que tu exerces, que nous puissions au plus profond de nous-mêmes être convaincus qu'ils sont justes et véritables, et que ainsi ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus.